Partie 3. Les perspectives d'avenir en matière de déplacement urbain dans le cadre d'un urbanisme dit durable. Afin de réduire de manière significative les kilomètres parcourus en voiture à l'échelle des agglomérations, il semble nécessaire de développer une logique de régulation qui inclut au moins les trois éléments suivants. L'évolution des mentalités en matière de déplacement urbain, le rééquilibrage de l'utilisation de l'espace public en faveur des modalités de transport douces, et enfin, une forte articulation entre politique d'urbanisme et politique de transport à l'échelle des bassins de vie. Petit A, de l'évolution nécessaire des mentalités en matière de déplacement urbain chez les politiques et les citoyens. La consommation de masse de l'automobile a marqué durablement la société française, les comportements de ses habitants et les structures de ses cités, explique Jean-Marc Hoffner, directeur du laboratoire technique territoire et société du CNRS Île-de-France. Ainsi, la ville automobile que nous connaissons aujourd'hui découle d'un choix politique conditionné en partie par la peur de la sanction de l'électorat.
D'une manière générale, les élus savent qu'il faut agir pour lutter contre le gaz à effet de serre, pour lutter contre la pollution urbaine, qu'elle soit de fond ou qu'elle soit de pointe. Le problème qu'on rencontre, enfin que je rencontre aussi avec les élus, c'est que entre une connaissance globale des problèmes et la mise en place de solutions pour combattre ces problèmes, il y a un grand pas. Et les élus ont toujours peur de mécontenter leur population en limitant, par exemple, l'usage de la voiture. Ils ont peur d'aller d'aller contre cette sacro-sainte liberté de circuler en ville. La grande majorité de la population est prête à changer de comportement. Donc moi, je pense que les élus sont en retard par rapport à leurs administrés.
Un militant politique a une conscience assez affirmée. Mais dès lors qu'il est élu, il émousse un peu ses convictions.
Georges Laborie.
Militant de la section de Castelginest, Nord-Toulousain. Donc ici, nous sommes au siège du Parti Socialiste Haute-Garonne. Parce que, nous le disions tout à l'heure, c'est l'électorat n'est pas avant-gardiste. Hein. L'électorat est soumis à la pression des médias, à la pression culturelle. Et par voie de conséquence, donc, tout ce qui traite d'environnement, si ça a un coût de surcroît, un coût pour soi, mais aussi financier, donc sur les impôts, dans les collectivités locales, un élu fait attention de ne pas trop pousser à un environnementalisme forcené, parce que ça coûte cher à la collectivité, ça coûte cher dans les dérangements de proximité, donc ça coûte cher électoralement.
D'autre part, ce choix politique est lié aux pressions économiques exercées par les multinationales du pétrole, les constructeurs automobiles, les transporteurs routiers et les médias. Une question clé est de savoir si l'on souhaite limiter la place de l'automobile dans nos agglomérations. Cette question dépasse largement les aspects technico-environnementaux, pollution, nuisance, coûts. Elle concerne un choix de société.
Jusqu'à quand pourra-t-on rouler ? Jusqu'à quand pourra-t-on rouler ? Jusqu'à quand pourra-t-on rouler ? Jusqu'à quand ?
Il y a 30 ans, pour une voiture, on se battait. Il y avait des carrefours, des embouteillages, où pour un oui, pour un non, un refus de priorité, on en venait aux mains.
Vous venez de mourir pour la troisième fois.
Je trouve que l'automobile aujourd'hui est considéré comme un outil de déplacement et non plus comme un objet de propriété et de faire valoir et d'affirmation de sa position sociale. Donc il y a des évolutions et donc en matière idéologique, les évolutions, sauf fracture révolutionnaire, ne se font que par petites touches et à petits pas. La maison individuelle, la bagnole, la télé, je ne sais plus, ou l'écran plat aujourd'hui sont des éléments de signes extérieurs, non de richesse, mais enfin d'assises sociales. Ceci évolue, je pense que les faits sont têtus et obligent les gens à se repositionner. L'environnement, tout le monde voudrait avoir un bon environnement pour soi, et puis les déchets chez les autres, l'incinérateur ailleurs, et tout à l'avenant, voilà. contre cela, eh bien, c'est un combat permanent. Ça, c'est un combat à renouveler incessamment. Souvent, on commet des erreurs. On veut des éoliennes, mais pas sous la fenêtre. On veut un incinérateur pour pouvoir éliminer les déchets, mais pas de la cheminée devant chez soi, enfin, etc. etc. Bon. Alors, ça, c'est le débat permanent d'un élu, d'un militant politique. Il faut trouver un compromis. Il faut trouver un moyen de vivre ensemble. C'est la raison d'être de militer politiquement.
Ainsi, dans quelle mesure sommes-nous prêts, politiques et citoyens, à faire évoluer nos habitudes de déplacement et plus globalement nos habitudes de vie? La réponse à cette question de la place accordée à l'automobile est lourde de conséquences quant aux décisions de planification urbaine. Petit b, la préconisation d'un rééquilibrage en faveur des modalités de transport douces, vélo, bus, rail. Notre société affecte plus de 80% de l'espace public à la circulation automobile et au stationnement des voitures, c'est-à-dire à un mode de déplacement individuel dont le taux d'occupation moyen ne dépasse pas les 1,2 personnes par automobile en agglomération. Or, il est désormais admis que toute augmentation de l'offre d'espace automobile se traduit par une augmentation de la circulation automobile, qui génère rapidement des congestions et nécessite donc de nouvelles voies de circulation pour les voitures. À titre de comparaison, le bus transporte 50 fois plus de personnes par voyage qu'une automobile, tout en étant jusqu'à 20 fois moins polluant. Le métro, pour sa part, n'émet aucun polluant et peut transporter jusqu'à 1000 personnes. Un rééquilibrage de l'occupation de l'espace public en faveur des transports en commun, bus, tramway, métro, et des circulations douces, cycles et piétons, apparaît donc comme nécessaire dans nos villes.
Il faudrait au contraire valoriser l'homme nouveau, qui est l'homme qui se déplace de manière plus collective et qui réfléchit avant de se déplacer au minimum d'énergie à consommer pour ce maximum de mobilité.
Il y a un incontestable gain économique à prendre les transports en commun plutôt que sa voiture. Si on veut dépenser un quart, un tiers, la moitié de son budget pour ses déplacements domicile-travail, il faut prendre la voiture dans ces situations-là. Si on prend les transports en commun, on a un budget beaucoup plus réduit et bien mieux maîtrisé.
Plusieurs villes françaises témoignent d'une vraie volonté dans ce sens. C'est le cas par exemple de Lyon, qui s'est distingué récemment avec les vélostations. Il s'agit de parcs de vélos en libre-service et gratuits, ou à un coût symbolique, répartis sur l'ensemble du territoire lyonnais. Ce type de mesure permet de banaliser la présence et l'usage du vélo en ville. Chacun peut prendre un vélo n'importe où dans la ville et le déposer dans n'importe quelle station, une fois son déplacement terminé. L'expérience de la ville de Lyon dans ce domaine semble confirmer le fait que ce service répond à une véritable attente de la part de la population. En quelques mois de service, les quelques milliers de vélos mis à disposition des Lyonnais ont rencontré un véritable engouement.
Il faut regarder le pragmatisme, l'efficacité. On va à certaines heures de la journée plus vite en vélo qu'en voiture. Donc toute personne pressée d'aller travailler comme un chef d'entreprise ne peut que utiliser le vélo. Et d'autre part, je crois qu'on est maintenant au 21e siècle. Être innovant, c'est aussi utiliser les modalités douces.
Cette expérience lyonnaise montre qu'il est possible de promouvoir les transports en commun et les circulations douces auprès des citadins, s'il existe une forte volonté politique de la part de la municipalité en place.
Les transports en commun et les transports par voie ferrée sont les perspectives d'avenir, alors que dans l'idéologie ambiante, c'est perçu comme des transports rétrogrades. Et donc, notre tâche de militant associatif ou politique, c'est de faire comprendre que le tramway, le rail, c'est un projet d'avenir. Il n'est pour preuve que les objectifs que la SNCF poursuit à ce moment, je pense à la ligne Paris-Strasbourg, pour venir même en concurrence sur des trajets de 400, 600, 800 km avec l'avion. Et donc, aujourd'hui où l'énergie se raréfie, il va falloir qu'on trouve des solutions qui consomment moins d'énergie et la voie ferrée répond à cela. Le ferroutage, notamment, c'est un transport d'avenir, mais cela nécessite une volonté politique, volonté financière nécessairement. Quand on voit les cortèges de camions sur les autoroutes, notamment le long de la Méditerranée, c'est exécrable, c'est-à-dire que c'est incompatible avec un développement harmonieux d'une civilisation développée.
Petit C, développer une réflexion globale qui dit déplacement urbain et urbanisme. Les déplacements urbains et l'urbanisation sont deux domaines d'action et de réflexion liés l'un à l'autre. En effet, on constate que l'usage de l'automobile dans les agglomérations est d'autant plus important que les villes sont étalées. L'étalement urbain est une expression qui désigne le phénomène de développement des surfaces urbanisées en périphérie des grandes villes. Cet étalement, qui est lié au développement démographique des agglomérations, se fait avec une densité du bâti d'autant plus faible que l'on s'éloigne du cœur des villes. Une faible densité urbaine est due au caractère pavillonnaire de son urbanisation. La surface occupée par un foyer, maison plus jardin privatif étant plus importante que celle d'un appartement en immeuble. La densité urbaine découle également de l'importance des espaces naturels conservés par les communes concernées.
Et les questions de foncier, de construction, d'urbanisation et de déplacement, toutes ces politiques sont liées. Bon, effectivement, plus compte tenu d'un foncier rare et cher, plus les gens vont loin et moins les conditions de transport collectif sont favorables, plus c'est une incitation à prendre la voiture.
D'autre part, la séparation des fonctions habitat, commerce, service, emploi dans les tissus urbains, liés aux extensions urbaines de faible densité, est également responsable de la place accrue de l'automobile dans les déplacements. La desserte en transport en commun de zones monofonctionnelles, par exemple les zones commerciales, ne sera jamais suffisante pour être attractive vis-à-vis de l'automobile. Or, une large part des urbanisations récentes consiste en des délocalisations d'équipements ou de lieux d'activité en périphérie des villes. Ces nouvelles localisations sont une concurrence à celles qui restent en centre-ville. Par ailleurs, précisons que ce type d'urbanisme est également une forme d'exclusion sociale par rapport aux personnes non motorisées, en nombre important notamment dans les quartiers d'habitat social. Or aujourd'hui, à l'heure de la prise de conscience en faveur d'un développement dit durable, le modèle de la ville étalée est remis en question en raison du coût social, énergétique et spatial de son développement. Les enjeux environnementaux, notamment la contribution des transports au réchauffement climatique, associés aux enjeux sociaux, conduisent à reconcevoir l'organisation des villes en privilégiant une densité urbaine plus forte et le développement important des transports collectifs.
Moi, je dis partout qu'il faut densifier. Il faut densifier. Mais
Jean-Michel Latte,
je suis l'élu chargé de la circulation, du transport et du stationnement à la ville de Toulouse. Allez dans une réunion de quartier et dites-leur, pour que la ville vive bien, qu'on fasse du développement durable, il faut mettre 2 étages de plus. Ils ne comprennent pas, les gens. Quand vous leur dites que les maisons individuelles qui s'étendent jusqu'à Montauban, c'est une catastrophe urbaine, ils ne comprennent pas, les gens. Ils ne comprennent pas parce qu'ils pensent au droit d'avoir son petit jardinet, sauf que c'est une catastrophe urbaine. Et qu'il faut densifier la ville de Toulouse. Ça, c'est Mais je vous dis, politiquement, ce n'est pas porteur. Hein.
C'est l'idéologie dominante de la maison individuelle type Californie, c'est-à-dire du soleil, de la pelouse, une piscine. Et une belle maison au milieu. Eh bien, ça, c'est sûr qu'on ne va pas le combattre en disant « haro sur ceux qui font ce choix-là », non. Mais sachant que si les gens font ce choix, qu'ils le fassent en connaissance de cause. D'autre part, les immeubles qui existent aujourd'hui à habitat collectif ne sont pas abandonnés. Il ne faut pas croire que les gens sont obnubilés tous par la maison individuelle. Il y a aujourd'hui des familles monoparentales, un couple sans enfants, des personnes âgées qui vivent seules, voire un couple, qui n'ont pas besoin, n'aspirent pas à une maison individuelle, à condition qu'il y ait des services appropriés à proximité. Et à cet égard, le centre-ville peut offrir des réponses à ce genre de choix et ne pas tout espérer d'un habitat qui s'étale à l'infini en banlieue.
Concrètement, cela pourrait se traduire par une réglementation plus stricte en matière d'urbanisation. L'urbanisation d'espaces non desservis par les transports en commun ne devrait plus être autorisée. Chaque projet d'urbanisation, habitat, industrie, bureau, commerce, devrait être accompagné d'un projet d'amélioration du réseau de transport en commun existant ou de nouvelles connexions au réseau si nécessaire.
Si l'on veut obtenir des résultats pour une meilleure qualité de l'air, ce n'est pas seulement un plan particulier qui peut générer des résultats. Donc je dirais qu'à travers la politique de déplacement, à travers une priorité très forte pour les transports en commun, nous contribuons aussi à la réduction d'un certain nombre de pollutions.
Ainsi, afin d'aider les collectivités locales à s'engager dans un processus de planification du développement durable urbain, différentes lois se sont succédées depuis le milieu des années 90. La loi sur l'air de 1996, qui fixe au plan de déplacement urbain la nécessité de réduire le transport automobile individuel et de partager la voirie avec les autres modes de déplacement. La loi de 1999 sur l'aménagement durable du territoire, qui incite les acteurs locaux à s'engager dans des plans d'aménagement durable du territoire. Et enfin, la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain de 2000, qui prône la mixité sociale et fonctionnelle des espaces urbains. Au-delà du cadre juridique, la question est de savoir dans quelle mesure les pratiques et les méthodes en matière de déplacement urbain et d'urbanisme vont véritablement évoluer. Et d'autre part, quelle sera la perception des citoyens concernant l'évolution de leur cadre de vie, ces citoyens à qui l'on demande de s'impliquer de plus en plus dans le débat sur la ville.
Mais de toutes ces voitures, la plus luxueuse fut sans doute la Krieger, Rolls-Royce des automobiles électriques et première traction avant de l'histoire de l'automobile. La compétition à son tour s'empara de l'électricité, avec Gentot encore.
Il y a eu une bataille infernale à la fin du 19e siècle pour le record du monde de vitesse. Ils se battaient régulièrement, ils se sont battus, je crois, le record 4 fois en quelques mois. Finalement, Genazzi a triomphé.
En effet, à Haché, en 1899, le coureur belge Camille Genazzi, au volant de la Jamais Contente, s'adjugeait le record du monde de vitesse avec 105 km/h.
Ça a duré jusqu'à quand ?
Ça a duré jusqu'à 1904-1905.
Et pourquoi ça s'est arrêté ?
Pourquoi ça s'est arrêté ? Il y avait plusieurs raisons, mais je crois que la principale, il faut faire appel à Freud. C'était pas viril. Le possesseur de voiture en 1900, c'est le même que celui qu'aujourd'hui est une Ferrari, une Maserati, une Lamborghini. Alors une voiture, c'était viril, c'était pour se déplacer, c'était pour plaire. Une voiture électrique, c'était silencieux, c'était tranquille. Alors qu'une voiture à essence, ça faisait du bruit, ça sentait mauvais. Et puis le mâle mettait en route à la manivelle. Alors voilà, je crois que c'est ça la vérité.
Oui, oui, dans sa voiture jaune, traverse la nuit comme un éclair. Il vire, freine, les klaxons.
Jusqu'à quand pourra-t-on rouler ? Jusqu'à quand pourra-t-on rouler ? Jusqu'à quand pourra-t-on rouler ? Jusqu'à quand pourra-t-on rouler ?